Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 12 septembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine. On parlera également du Malaysian-Tunisian Cultural Heritage Symposium de 2021 de ce week-end. Mais d'abord, c'est le journal, il est 13h. Les grands titres de ce dimanche 12 septembre, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1262 cas locaux de Covid-19 et 7 décès. Une nouvelle campagne Covid-19 est lancée à travers le pays ce dimanche, ciblant celles et ceux qui hésitent à se faire vacciner. Et puis la Britannique Emma Raducanu remporte la finale de l'US Open de tennis. Tout d'abord, la Nouvelle-Galles du Sud qui a enregistré 1262 cas locaux de Covid-19 et 7 décès. Il y a eu une certaine stabilisation dans certaines banlieues préoccupantes, mais le virus continue de s'accélérer dans certaines banlieues du sud-ouest, du centre de Sydney et du centre-ouest. 78% des gens âgés de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose d'un vaccin Covid et 45% de la population éligible est complètement vaccinée. La dirigeante de l'État, Gladys Berejiklian, déclare qu'une fois que quelqu'un s'est inscrit pour sa première dose de vaccin, la seconde est garantie.
We're really keen to see that first dose number be as high as possible before we open up to give us that extra level of coverage and safety. I'm personally very looking forward to when we get to 80% double dose and beyond, and that's up to all of us. So please, please encourage anyone in your circle who hasn't yet been vaccinated to come forward and get the vaccine.
Et à partir de demain, lundi 13 septembre, Gladys Berejiklian ne donnera plus de points de presse quotidiens sur le Covid-19 à 11h du matin. Elle déclare qu'elle et d'autres ministres donneraient des conférences de presse si besoin, car elle était incapable de faire son travail correctement si elle continuait à se présenter face aux journalistes tous les jours. Les mises à jour quotidiennes seront présentées en ligne par l'équipe de santé de Nouvelle-Galles du Sud. Le Victoria a signalé ce dimanche 392 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement. Le département de la santé indique que 107 cas sont liés à des épidémies connues, la source des 285 autres cas faisant l'objet d'une enquête. 85% des cas actifs ont moins de 50 ans. 65% de la population éligible ont désormais reçu une première dose de vaccin. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que plus de 60 000 personnes se sont fait vacciner hier.
Whilst there were 61,000 vaccination bookings made yesterday, a very strong number of bookings, that takes us to 400,000 bookings for the week, which is our strongest week to date. I can inform all of those listening and watching at home that there are 7,000 Pfizer first dose appointments that are empty, vacant, waiting for you at state clinics over the next week, and 11,000 first dose AstraZeneca appointments available at state clinics as well.
Et puis, tous les services de trains régionaux dans le Victoria ont été suspendus. Les autocars remplacent plutôt tous les services V-Line. Plus de 180 chauffeurs et membres du personnel opérationnel ont été placés en isolement à la suite de 4 tests de coronavirus positifs parmi les travailleurs. Le Queensland n'a enregistré aucun nouveau cas local de Covid-19 ce dimanche, mais le chef adjoint du Queensland, Stephen Miles, admet que le résultat d'aujourd'hui est le meilleur que les habitants du Queensland auraient pu espérer à ce stade de l'épidémie. Mais quand même, il faut rester vigilant.
another donut day. I think the health minister's just bought us a couple of donuts to celebrate what is a great result and is a credit to how Queenslanders do as we ask them to do. They wear their masks, they scan their QR codes, they socially distance. You can see all of that happening here at the Kite Festival. And that's what's stood us in such great stead. Of course, people have continued to get tested. We need to continue to monitor the situation, particularly south of the river down through Logan and into the Gold Coast.
La chef de la santé du Queensland, Janet Young, a déclaré que trois hommes avaient traversé la frontière de la Nouvelle-Galles du Sud pour arriver au Queensland. L'un de ces hommes est resté avec le père d'une famille qui est maintenant testé positif au Covid-19. Dr Young a déclaré que deux de ces trois hommes ont maintenant été testés positifs.
I'm now confident that's where the virus came into Queensland to infect those five people. But those two people had minimal exposure in Queensland. So they had not been around and about. So that is good news. They had been down in the Gold Coast, so I would ask that anyone in the Gold Coast, any symptoms at all, no matter how mild, please come forward and get tested.
Le chef de l'Australie du Sud, Stephen Marshall, se dit convaincu que les frontières de son État s'ouvriront aux États touchés par le Covid-19 d'ici Noël, mais il déclare que cela ne se produira que lorsque son propre État, l'Australie méridionale, atteindra la barre des 80% de double vaccination. Stephen Marshall prévient que la frontière pourrait encore être fermée aux personnes qui se trouvent dans les zones sensibles dans un avenir proche. Il y a eu 6 cas de coronavirus dans l'industrie des transports de l'État au cours de la dernière semaine. Le gouvernement de l'Australie occidentale exhorte les parents à faire vacciner leurs adolescents contre le Covid-19 cette semaine, car l'État autorise les vaccins Pfizer pour les résidents âgés de 12 à 15 ans. Tous les habitants de l'Australie occidentale âgés de 12 ans et plus seront éligibles pour un vaccin Covid-19 à partir de demain, lundi 13 septembre. Le ministre de la Santé, Roger Cook, a déclaré que les parents et les tuteurs pouvaient se rendre sur le site web Rollup for WA pour faire une réservation dans une clinique de vaccination gérée par l'État ou prendre rendez-vous avec un médecin généraliste à partir de 8h30 du matin demain lundi. 50 millions de dollars supplémentaires seront dépensés pour essayer de convaincre les 20% d'Australiens qui hésitent à se faire vacciner contre le Covid-19. Le gouvernement fédéral a lancé ce dimanche 12 septembre une nouvelle campagne promouvant un réseau en expansion de sites de vaccination ciblant un groupe d'âge plus jeune. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que les recherches ont montré qu'un nombre croissant de personnes étaient disposées à se faire vacciner, alors que le pays envisage un taux de vaccination complète de 70 à 80% avant d'assouplir le verrouillage et les restrictions de voyage. Cette campagne appelée « First Things First » cible ceux qui ne sont toujours pas sûrs de se faire vacciner. Il met en évidence les libertés dont bénéficieront les Australiens vaccinés une fois que les objectifs de vaccination de 70% puis de 80% seront atteints. La campagne sera diffusée à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, en ligne, à l'extérieur et dans les centres commerciaux. Ailleurs dans le monde, les familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre ont rendu hommage à celles et ceux qui sont morts lors d'une cérémonie spéciale pour marquer le 20e anniversaire de l'événement. Le président américain Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont rejoint les proches des victimes et les premiers intervenants sur la place commémorative du 11 septembre à New York. La cérémonie a débuté par une minute de silence à 8h46, heure exacte à laquelle le premier des deux avions a percuté les tours jumelles du World Trade Center. Le père de Sarah Lowe, une hôtesse de l'air sur l'un des avions détournés, Mike Lowe, a prononcé le discours d'ouverture.
These 20 years have felt like both a long time and a short time. And as we recite the names of those we lost, my memory goes back to that terrible day when it felt like an evil specter had descended on our world. But it was also a time when many people acted above and beyond the ordinary.
Les proches ont ensuite lu à haute voix les noms de 2977 victimes, un rituel annuel qui dure presque 4 heures.
Gordon M. Ameth Jr. Edelmiro Abad. Marie Rose Abad. Andrew Anthony Abate. Vincent Paul Abate. Lawrence Christopher Abel.
On écoute maintenant le témoignage de cette Française, Géraldine Philippi. Présentation François Bernard pour Radio France Internationale.
Géraldine Philippi, qui est une jeune Française installée depuis peu à New York, avait rendez-vous au sommet d'une des deux tours. Il était 8 heures du matin pour une réunion de travail et un rendez-vous qui, par le plus grand des hasards, a été déplacé la veille au soir, le 10 septembre donc, dans un restaurant à une centaine de mètres du World Trade Center. À 8h46, quand le premier avion percute l'une des deux tours, elle entend le choc de l'impact. Elle raconte la suite de cette journée à Michael Ponge.
On entend un grand bruit et on s'approche des fenêtres, on sort sur une petite terrasse et effectivement, à hauteur de vue, on voit un trou assez gros, mais on voit même plus la queue de l'avion, donc je comprends que l'avion s'est désintégré dans la tour et s'approche de nous, au loin, un avion. Et cet avion se dirige vers nous et percute l'arrière de l'autre tour. On pense tout de suite à une attaque terroriste, on comprend que c'est grave et moi je prends mon sac et je dis il faut partir. J'ai voulu partir parce que je me disais si les tours tombent vers moi, eh bien on est tous morts et donc il faut partir. Et donc je suis partie seule. Quand je suis arrivée dans la rue, j'ai entendu le métro qui arrivait, j'ai pensé qu'il fallait que je monte dedans parce que c'était le seul moyen que j'avais de partir rapidement de la scène. Et je suis montée dans le métro, les portes se sont fermées, je me suis posé la question de savoir lequel c'était, je ne savais pas. Et on est passé sous les tours. Et heureusement, le conducteur a eu des instructions, il nous a emmenés directement à la 33e rue et la 7e avenue. Et quand les portes se sont ouvertes, en montant les escaliers, je me retourne vers le sud de la ville. Et là, je vois une tour qui s'effondre. Et je comprends qu'en l'espace d'une heure et quelques, j'aurais pu mourir deux fois.
La Russie a accusé les États-Unis d'ingérence dans ces élections législatives qui auront lieu dans un peu plus d'une semaine. Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'application Smart Vote du critique emprisonné du Kremlin, Alexei Navalny, était liée d'une manière ou d'une autre au Pentagone. Les partisans de Navalny utilisent l'application pour appeler les Russes à voter contre le parti Russie Unie lors des prochaines élections qui se dérouleront du 17 au 19 septembre prochain. Les précisions de Julien Colling pour RFI.
L'ambassadeur John Sullivan s'est vu présenter les preuves irréfutables, je cite, de cette ingérence. Le ministère des Affaires étrangères russe précise aussi que cette violation de la loi est le fait des géants du numérique américain, sans toutefois préciser la nature de cette violation. En réalité, c'est l'ombre de l'opposant Alexei Navalny qui plane sur cette affaire. La semaine dernière déjà, le gendarme des télécoms russe, le Roskomnadzor, adressait ainsi un avertissement assez ferme aux GAFA, Apple et Google notamment. En cause, leur refus de supprimer de leur boutique l'application créée par l'équipe de Navalny pour promouvoir sa stratégie du vote intelligent. Pour rappel, cette tactique consiste à voter dans les régions russes pour le candidat le plus à même de battre le représentant du parti au pouvoir, Russie Unie. Dans le même temps, le Roskomnadzor avait d'ailleurs bloqué 6 différents fournisseurs de VPN, ces logiciels servant à contourner le blocage de plus en plus généralisé en Russie de sites web indésirables. D'ailleurs, le site principal d'Alexei Navalny et celui du vote intelligent sont bien évidemment bloqués eux aussi en Russie depuis quelques semaines déjà. Dans ce contexte de restrictions tous azimuts, difficile de prévoir dans quelle mesure la stratégie de Navalny portera ses fruits dimanche prochain. Car rappelons-le, en amont de ce scrutin important pour le Kremlin, une majorité des candidats d'opposition ou indépendants ont déjà été arrêtés ou empêchés de concourir.
Un mot de sport, Emma Raducanu a terminé son conte de fées new-yorkais et l'un des exploits les plus étonnants du sport en battant Leila Fernandez pour remporter la finale de l'US Open de tennis. On écoute Emma Raducanu.
I really want to congratulate Leila and her team on an incredible fortnight. I mean, she's played some incredible tennis and beaten some of the top players in the world, so it was an incredibly difficult match, but I thought the level was extremely high, and I hope that we play each other in many more tournaments and hopefully finals. Leila's always going to play great tennis and always going to fight. That's just the competitor she is, and that's why she's here in the finals.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 14. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 18. Sydney, 29. Brisbane, 29. Cairns, 29. Darwin, 33. Et à Alice Springs, maximale de 28 degrés. Un rappel des grands titres de ce 12 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1262 cas locaux de Covid-19 et 7 décès. Une nouvelle campagne Covid-19 est lancée à travers le pays ce dimanche, ciblant celles et ceux qui hésitent à se faire vacciner. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord l'US Open de tennis avec la finale des dames, des teenagers au fait, remportée par Emma Raducanu, la Britannique âgée de 19 ans. Elle a gagné en deux manches, 6-4, 6-3 contre la Canadienne Leila Fernandez. La Britannique est la première joueuse issue des qualifications à décrocher un titre du Grand Chelem et aussi la plus jeune depuis la Russe Maria Sharapova qui avait remporté Wimbledon en 2004 à l'âge de 17 ans. Antoine Grenier, Radio France Internationale.
Elle n'a que 18 ans et elle vient de réaliser un exploit monumental jamais réalisé jusqu'à présent dans le tennis. Remporter un titre du Grand Chelem en sortant des qualifications. 150e joueuse mondiale au début de cette US Open, Raducanu était une anonyme, tout juste une promesse de son sport. Mais elle aura donc traversé ces trois dernières semaines sur un nuage. 10 matchs au total en comptant les qualifications donc, sans perdre un seul set. Ce qui traduit la domination qu'elle a exercée sur ses adversaires. Née au Canada, d'une mère chinoise et d'un père roumain, Raducanu est une énigme qui a produit un tennis de rêve à New York. Son adversaire en finale, Leila Fernandez, n'a pas résisté longtemps à l'ouragan comme les autres. Touchée par la grâce, la Britannique a paru imperméable à la pression. C'est peut-être l'avènement d'une grande championne destinée à régner sur le tennis mondial.
La finale des messieurs, c'est ce dimanche entre le Serbe Novak Djokovic et Danil Medvedev, le Russe. Il ne reste encore une victoire pour le Serbe pour son fameux Graal de 4 grands chelems en une année depuis sa victoire en janvier dernier à l'Open d'Australie, ensuite à Roland-Garros en mai et à Wimbledon en juillet. On écoute Novak Djokovic.
I'm going to put my heart and my soul and my body and my head into that one. I'm going to treat the next match like it was, like it is the last match of my career.
Le dernier à réaliser l'exploit, c'était l'Australien Rod Laver, il y a 52 ans, et il sera présent au Arthur Ashe Stadium ce soir. On passe à l'AFL et on connaît l'affiche de la grande finale de 2021. Ce sera Melbourne contre les Western Bulldogs et cette grande finale aura lieu au Perth Stadium le samedi 25 septembre à partir de 17h15, heure locale. Rugby, on passe au Rugby Championship. La quatrième journée, c'est ce dimanche. L'Australie jouera contre l'Afrique du Sud avec les Wallabies qui vont porter un nouveau maillot, comme nous l'explique Grégory Pless pour Radio France Internationale.
Des cercles concentriques et des lignes pointillées qui symbolisent la réunion des communautés indigènes et non indigènes. Ce sont les motifs qui apparaîtront dès aujourd'hui et pour toujours sur le maillot principal des joueurs de l'équipe nationale de rugby australienne. Ces motifs, ils sont l'œuvre de l'artiste aborigène Dennis Golding. Il a été choisi par la Fédération australienne de rugby qui souhaitait ainsi rendre hommage aux joueurs aborigènes ayant porté le maillot. Un hommage similaire apparaît déjà depuis 2017 sur le maillot secondaire des Wallabies, mais les joueurs le portent beaucoup moins souvent. Ça n'est d'ailleurs arrivé que 5 fois depuis sa création. C'est pourquoi Andy Murhead, membre du 15 australien et lui-même aborigène, estime que l'apparition de ces motifs sur le maillot principal porte le symbole à un tout autre niveau.
Avoir ce genre de motif sur un maillot qu'on porte toutes les semaines est un grand pas en avant à mon sens. Je pense que le fait que les joueurs puissent se jouer avec ce maillot toutes les semaines tout en exposant la culture aborigène, c'est vraiment spécial.
Reste maintenant à souhaiter aux Wallabies que ce nouveau maillot leur porte chance contre l'Afrique du Sud, les actuels numéro 1 mondiaux, car l'Australie vient de subir 3 défaites d'affilée face à la Nouvelle-Zélande. Une équipe qui elle aussi célèbre sa culture indigène sur le terrain en pratiquant le haka avant chaque rencontre.
Et puis dans l'autre match, c'est la Nouvelle-Zélande qui jouera contre l'Argentine. À noter que les deux matchs se joueront sur la Gold Coast ce dimanche au Queensland. On passe au foot, le ballon rond. La Ligue 1 en France avec deux matchs hier, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre Clermont, 4-0. Antoine Grenier et Martin Guèze pour RFI.
Même eu quelques sifflets à l'annonce du nom de Kylian Mbappé pendant l'échauffement. Des supporters un petit peu chafouins qui avaient coché ce match pour voir les premiers pas de Lionel Messi dans le jardin parisien. Mais l'Argentin, à peine rentré de sélection, était au repos comme les autres joueurs sud-américains. Et Damien, maillot flambant neuf du gaucher sur les épaules, n'en a pas fait une grande affaire.
Pas de déception, il reste du monde sur le terrain, Mbappé, il y a Donnarumma qui sera dans les cages, donc ce ne sera pas un match au rabais. Les gros matchs après, on va voir Messi, ça risque d'être beaucoup plus sympa sur les prochains, mais faut laisser se reposer de la sélection argentine, c'est normal.
Pas de Messi, pas de Neymar, pas de Ramos, pas de Verratti, Demba non plus n'en fait pas une maladie. Ce jeune papa presse le pas avant d'entrer dans le stade avec sa petite Nouma dans les bras, 2 ans et nouvelle spectatrice du parc.
Malheureusement ils sont pas là, mais bon c'est pas grave, c'est comme le Paris Saint-Germain, on vient pas pour vous, on vient pour voir le Paris Saint-Germain. Tant pis s'ils sont pas là, voilà.
Quel âge tu as ?
9 ans !
Est-ce que tu es contente ?
Oui !
Et quel joueur tu aimes bien au Paris Saint-Germain ?
Messi !
Et alors il sera pas là aujourd'hui ?
C'est pas grave.
Bah non, c'est pas grave, il reste Kylian Mbappé.
Il y a ce qu'il faut, il a de quoi porter, en espérant que voilà, les histoires de transfert, ça soit un peu derrière lui. Donc on espère qu'il mette toute la bonne volonté pour planter les buts.
Espérons qu'il fasse un bon match et qu'il oublie tout ce qui s'est dit sur lui pendant la période de transfert.
Transfert, ou plutôt non-transfert, hein. Bien digéré, Kylian Mbappé reste le même, une machine à marquer avec Paris.
Oui, le appliqué concerné Kylian Mbappé a maîtrisé son sujet impliqué sur les 4 buts de son équipe. Il est surtout l'auteur du 3e. Alors en début de deuxième période, il prend de vitesse la défense clermontoise, il dribble le gardien, il marque dans le but vide, sa 4e réalisation de la saison. Oubliez les quelques sifflets, le numéro 7 est même sorti acclamé à 10 minutes de la fin, sous les applaudissements nourris d'un public debout.
Et dans l'autre match, Marseille s'est imposé contre Monaco, 2-0. On passe en Angleterre avec quelques matchs de la 4e journée et les 2 buts de Ronaldo contre Newcastle hier pour Manchester United dans une victoire au final 4-1. comme nous l'expliquent Antoine Grenier et Philippe Auclair pour RFI.
J'apprécie, l'habillage sonore est parfait.
Je savais que ça vous plairait. Quatrième journée de Premier League, doublé pour CR7 contre Newcastle. Victoire 4-1 d'un Manchester United en pleine forme. Mais comme le chantait Jill Scotteron, qu'on vient d'entendre, la révolution elle n'était pas télévisée en Angleterre. C'est assez surprenant, Philippe.
C'est surprenant et ça ne l'est pas. Il y a 5 pays dans lesquels ce match n'était pas retransmis en direct sur toute la planète. Alors voilà leurs noms. Cuba, Turkménistan, Afghanistan, Corée du Nord et Royaume-Uni. Voilà. Ces pays ont en commun qu'ils n'ont pas montré le retour de Cristiano Ronaldo en direct. C'est parce que le football anglais est un football pyramidal dans lequel les clubs de division inférieure attirent des foules, plusieurs milliers, même à niveau amateur. Et pour protéger ces clubs qui généralement jouent le samedi à 15h heure locale, eh bien donc il y a un blackout sur les matchs de première division qui se jouent à cette heure-là, pour éviter que les gens soient au pub ou devant leur télé et qu'ils continuent d'aller au stade pour encourager les équipes locales. C'est la raison de cette décision, et c'est une décision qui, à mon avis, est irrévocable, qui est tellement liée à l'essence du football anglais qu'on risque de la voir encore un bout de temps. Même si ça surprend l'étranger, pour nous, c'est complètement naturel. Et donc, du coup, l'Angleterre a dû se contenter soit de trouver des moyens de regarder ce match, on va dire ça comme ça, soit d'attendre, bien évidemment, le différé, et puis l'émission Match of the Day qui sera diffusée sur la BBC pour voir de larges extraits, dira-t-on, de cette rencontre, bien évidemment dominée par le retour de Cristiano Ronaldo.
Au classement, Manchester United et Chelsea sont à la tête. Chelsea qui a gagné contre Aston Villa, 3-0. On parle toujours de foot et l'arrivée de Camavinga au Real de Madrid avec Eric Mamrut pour RFI.
18 ans et déjà joueur du Real Madrid après 8 saisons passées à Rennes, son club formateur. Voilà le jeune milieu international, membre de la prestigieuse Maison Blanche, de quoi avoir des étoiles plein les yeux tout à l'heure lors de sa présentation à la presse madrilène, Eduardo Camavinga.
C'est un rêve. Depuis tout petit, je rêvais de jouer dans ce club. Oui, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Et je vais tout donner pour jouer et pour rendre fiers les supporters et ma famille et le club. J'étais très fier et très heureux d'être ici. Dès que j'ai su qu'il y avait l'occasion de venir, j'ai sauté sur l'occasion et je suis très heureux aujourd'hui. Le premier facteur, déjà, c'est pas l'argent. Déjà, c'est le plaisir. C'est un choix qui a été réfléchi, tout simplement. Même si l'année dernière, la saison s'est plutôt mal passée. Et je savais qu'en venant ici, j'allais m'épanouir. Et en plus, vu que je suis un jeune joueur, jouer autour de grands noms du football aussi, ça me fait apprendre. Parce que d'abord, dans un premier temps, je suis là pour apprendre. Après, peut-être que oui, j'aurais besoin d'un temps d'adaptation. Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je me sens prêt.
Enfin, Formule 1, Grand Prix d'Italie, c'est ce dimanche. Ainsi que le Grand Prix de moto GP d'Aragon qui va se dérouler en Espagne. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement marquant de l'actualité et un personnage qui lui est associé. Pour nous en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, notre personnage, Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo, oui, l'acteur français décédé lundi dernier à 88 ans, l'une des figures les plus marquantes du cinéma français des 50-60 dernières années. Il s'est éteint chez lui et l'annonce de son décès a aussitôt suscité une énorme émotion. Jean-Paul Belmondo faisait partie de ces monstres sacrés du cinéma, même s'il s'était retiré de ce business depuis longtemps, comme pouvait l'être le chanteur Johnny Hallyday, décédé lui en 2017. Il faisait, oui, partie de ces grandes figures culturelles, populaires, françaises. On va revenir sur sa carrière, les 80 films, les films cultes des années 70-80 de Jean-Paul Belmondo, cette page qui se tourne, et l'hommage qui lui a été rendu à la hauteur du personnage. Dès lundi, des centaines de fans badauds se sont rendus près de son domicile à Paris et dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés où il a vécu dans un hôtel particulier pendant des années. Un hommage national lui a été rendu jeudi à Paris dans la cour des Invalides avant les obsèques plus intimes vendredi dans l'église de Saint-Germain-des-Prés.
Lors de la cérémonie des Invalides, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé un éloge funèbre.
Oui, alors certaines voix se sont fait entendre pour s'étonner qu'un hommage soit ainsi rendu aux Invalides, lieu généralement dédié aux militaires, notamment aux militaires tombés sur les champs de bataille, les héros de la nation. Mais ce n'est pas un précaré et des civils peuvent y être salués. Un hommage national pour Jean-Paul Belmondo, rien n'y interdit d'y célébrer aux Invalides de grandes figures de la culture française. Et là où certains ont voulu y voir de la récupération politique par Emmanuel Macron, n'oublions pas que nous sommes à 8 mois de la prochaine élection présidentielle, eh bien le chef de l'État, il a cherché à replacer la vie, l'œuvre de l'acteur dans ce qu'il représente pour l'inconscient collectif. « Nous aimons Belmondo », a lancé Emmanuel Macron, « parce qu'il nous ressemblait, il épousa la France ».« Cher Jean-Paul », a continué le chef de l'État lors de cette cérémonie, « vous perdre, c'est perdre une part de nos vies. Belmondo, c'est un peu nous en mieux ». Et il a continué ainsi, Emmanuel Macron, « il était de la famille, ce héros aux mille visages, dont les rôles, je cite, ont scandé 6 décennies de la vie française ». Alors, on ne va pas citer tout le discours du président, qui a terminé par un « adieu Bébel », mais cette cérémonie, elle était empreinte, oui, de beaucoup d'émotions. Près de 1000 personnes avaient eu l'autorisation d'être là, dans la cour des Invalides. N'oublions pas que nous sommes en pleine crise sanitaire. Il fallait une attestation Covid, vaccinale, pour accéder à la cour. Le cercueil de Jean-Paul Belmondo, recouvert d'un drapeau bleu, blanc, rouge, qui symboliquement, à la fin de la cérémonie, a quitté la cour au son de la musique Chimay, interprétée en direct par l'orchestre de la garde républicaine. Cette musique poignante, bande originale du Professionnel, le film de 1981 où Jean-Paul Belmondo, Joss dans le film, tient le personnage principal. Cette musique d'Ennio Morricone, après la cérémonie où nombre d'acteurs, personnalités du monde du cinéma étaient là, les Patrick Bruel, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Marion Cotillard, etc. La cour des Invalides, dans la soirée, dans la nuit, est restée ouverte au public. Et là, ceux et celles qui le souhaitaient, au prix d'une longue attente de plusieurs heures, ils ont pu entrer, ils ont pu venir se recueillir quelques instants, quelques minutes devant le cercueil.
Revenons sur la carrière proprement dite de Jean-Paul Belmondo, sur ses plus grands succès.
À bout de souffle, en 1960, Un Saint-Jean d'hiver, 1962, L'Homme de Rio, 1964, 100 000 dollars au soleil, Borsalino, Le Casse, Le Magnifique, en 1973, Le Professionnel, rediffusé jeudi soir sur France 2 et regardé par près de 5 millions de personnes. C'est au cœur des années 60-70 que Jean-Paul Belmondo, Bébel, a éclaté aux yeux du grand public. À bout de souffle, avec aux manettes Jean-Luc Godard comme réalisateur, ils vont incarner ce que l'on a appelé la nouvelle vague du cinéma français. C'est ce cinéma des 30 glorieuses dans cette société en plein mouvement. Cinéma avec des acteurs décomplexés qui renvoient aux questions sociétales de leur temps, les années 60 en France. Beau gosse, sportif, séducteur, des dialogues ciselés, Jean-Paul Belmondo était tout cela. Il a été avec Alain Delon, qui était à ses obsèques vendredi à Saint-Germain-des-Prés, ou un Johnny Hallyday, on le disait tout à l'heure, le chanteur, un symbole de ces années. Lino Ventura, Catherine Deneuve, il a côtoyé les plus grands, ceux qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Jean-Paul Belmondo et sa gouaille, ses rôles de voyou, de cascadeur, il épousa tous les rôles, tantôt dramatiques, tantôt comiques, mais ce qui frappe quand on regarde l'ensemble de son œuvre, tous les films qu'il a pu tourner, c'est que quel que soit le genre, quels que soient les films qu'il a tournés, toutes ses œuvres, elles restent marquées par un magnétisme fou avec un personnage central, Jean-Paul Belmondo, qui aimante littéralement l'écran. Les histoires, les scénarios pouvaient changer d'un film à l'autre. C'est Bébel, le personnage de Belmondo que l'on venait voir au cinéma. Tous ces films dont on parle, ils ont rencontré d'énormes succès au box-office. Et ensuite, quand la télévision, les cassettes vidéo se sont généralisées dans les années 80, eh bien, ces films ont été vus et revus des centaines de fois, comme un Bourville, comme on revoit un Bourville ou un De Funès. Son dernier grand succès à Jean-Paul Belmondo, dans un rôle un peu différent, il remonte à 1988, alors ça peut paraître loin, hein, mais il est mort à 88 ans. Itinéraire d'un enfant gâté, le film de Claude Lelouch, fin des années 80. Durant sa carrière, il y a eu cette rivalité pour tenir le premier rôle avec Alain Delon, rivalité instrumentalisée par les médias, car les deux hommes s'appréciaient et se respectaient énormément. Deux grands amis, Belmondo, Delon, tous deux têtes d'affiche dans Borsalino. Alain Delon, aujourd'hui âgé de 85 ans, on l'a dit, il était aux obsèques vendredi, très ému. Delon, Belmondo, couple mythique du cinéma français. Jean-Paul Belmondo s'était éloigné des plateaux de cinéma depuis la fin des années 90, et puis victime ensuite d'un accident vasculaire cérébral en 2001. La convalescence après cet AVC a été très longue, très difficile. Il est resté 2 ans sans pouvoir parler, souffrant de paralysie faciale. Mais à force de détermination, il avait retrouvé les mots, la parole, et il gardait toute sa tête, Jean-Paul Belmondo, qui a pu vivre une retraite paisible, hein, malgré ses soucis de santé. Il disait puiser sa force dans la mémoire de son père, le sculpteur de renom Paul Belmondo. C'est mon père qui m'a donné la force de m'en sortir, même s'il n'était plus là, expliquait Bebel, ajoutant, il disait toujours, les ennuis, on les surmonte.
Merci Émile pour ce coup de projecteur sur le personnage de la semaine. À bientôt. Et bientôt 42 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez SBS French. Je passe l'antenne dans quelques instants à mon collègue Bertrand qui va faire le point sur le Malaysia Tunisia Cultural Heritage Symposium de ce week-end, qui a pour objectif de partager le savoir des experts du patrimoine culturel à travers le monde et partager le travail interactif des visites virtuelles et sites web réalisés par des étudiants tunisiens et malaisiens. Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Majdi Fallet, chercheur enseignant et représentant du réseau Engage Hub Tunisie pour le patrimoine humanitaire basé en Grande-Bretagne, et le docteur Malek Latawi, professeur à l'école polytechnique de Sousse en Tunisie. Et nous nous entretenons en marge du symposium Match 2021. Match en abrégé, c'est l'abrégé du Malaysia and Tunisia Cultural Heritage 2021, un symposium qui est le premier de son genre. C'est ma toute première question. Ce genre d'échange culturel, surtout sur le patrimoine, ça se fait normalement dans un cadre nord-sud. Rarement a-t-on vu un pays de la rive de la Méditerranée entrer dans une collaboration scientifique culturelle avec un pays asiatique, en quelque sorte une première mondiale.
Cette coopération, elle reste limitée dans le cadre du secteur de l'éducation, notamment en Tunisie. Étant académique, moi-même chercheur qui a vécu en Australie pendant plusieurs années, j'ai côtoyé plusieurs collègues qui viennent de la Malaisie, l'Indonésie, etc. Et j'ai bien noté qu'il n'y a pas vraiment de connexion, il n'y a pas de pont entre les deux rives sud-sud. Ce qui est important dans le cadre des universités, des échanges universitaires, etc. Donc cette collaboration entre chercheurs, enseignants et étudiants organisés dans le cadre d'une école d'été Summer School pour les écoles d'architecture tunisienne et nous, Polytech SUS, et l'université malaisienne de renommée IUM, donc l'université islamique internationale de la Malaisie, IUM, créée pendant les années 80. Cette école d'été aussi s'inscrit dans le cadre du projet ou des projets du Network Engage, qui est un network, un réseau qui travaille sur la promotion de l'héritage marginalisé dans différents pays, qui travaille sur le networking, sur les réseaux entre plusieurs pays dans le cadre de l'apprentissage ou bien collaboration sur ce thème, sur le thème de l'héritage. Du côté de la Malaisie, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un cours intitulé Landscape Heritage and Cultural Studies. C'est un cours de troisième année à l'université IIUM. On a essayé de créer cette collaboration, cette école d'été. En fait, il y a deux phases en ce qui concerne ce projet. Donc, le déroulement se déroule en deux phases principalement. La première, c'est la phase du 2 août jusqu'au 9 septembre. Donc, durant cette phase, chaque équipe d'étudiants a été appelée à travailler sur un site correspondant. Ce qui est intéressant, c'est que on a fait de sorte que les étudiants tunisiens sélectionnés après un interview travaillent sur des sites malaisiens, à savoir Johor Bahru, à savoir Malacca, à savoir Georgetown à Penang, et vice-versa. Donc, les étudiants malaisiens ont travaillé sur trois sites classifiés par l'UNESCO, donc à savoir Médina Tunis, Médina de Sousse et Médina de Kairouan en Tunisie. Au cours de la première phase, il y avait des conférences hebdomadaires programmées durant cette période, différentes séances de correction. On a demandé aux étudiants d'être créatifs, de créer des plateformes, de créer des analyses approfondies de l'architecture, de l'héritage de ces villes-là, des visites virtuelles à travers des 3D. Demain, le site où la présentation aux étudiants sera prête. Et la deuxième phase, brièvement, qui se déroule du 10 au 12 septembre, là, on est au premier jour. Donc, cette phase constitue l'aboutissement de la première phase. Se déroule sous forme d'un symposium virtuel qu'on vient de commencer. Il y a plusieurs conférences, plusieurs programmes, expositions virtuelles. Aujourd'hui, on a eu plusieurs conférenciers de la Malaisie, la Grande-Bretagne. Demain, il y aura les étudiants, la journée pour les étudiants. Et dernier jour, il y aura d'autres conférenciers qui vont présenter sur la notion de l'héritage.
Normalement, un événement pareil, on se serait attendu à des échanges, des voyages des étudiants ou même des enseignants d'une ville à l'autre, parce que bon, il s'agit quand même d'apprécier l'architecture, l'héritage culturel visuellement, concrètement, physiquement et le voir. Mais cette fois-ci, ça se passe virtuellement. Je vois des avantages, mais aussi des gros inconvénients.
Tout à fait. Vu le contexte dans lequel on vit depuis l'année dernière, la pandémie du COVID-19, vu qu'il y a beaucoup de restrictions en Malaisie, en Tunisie, partout pour voyager, on a décidé que la meilleure façon d'organiser ce séminaire-là, ce workshop, sera une école d'été virtuelle. Et ça peut se passer dans les... En temps normal aussi, en temps normal, ce serait intéressant vu qu'il y a beaucoup de limites pour voyager et tout, pour les étudiants, pour des fois pour les enseignants, etc. Donc, les avantages, c'est que ça a créé plusieurs opportunités pour résoudre les problèmes technologiques, pour être plus créatif, pour créer des plateformes virtuelles, notamment le site web, les pages virtuelles, etc., étaient créées principalement par les étudiants, entièrement par les étudiants, en fait, de A jusqu'à Z. Donc, il y a cette énergie pour l'échange, il y a cette énergie pour partager le savoir, il y a cette énergie pour partager l'information. Donc, on a cherché de l'information par rapport à ces sites historiques, les plans, coupes, façades, etc., les détails de ces sites historiques en Tunisie, en Malaisie, donc... Il y avait cette énergie de rive. La limite, comme vous l'avez mentionné, c'est le fait qu'on peut pas voyager pour apprécier les détails, pour apprécier la vie des communautés qui vivent à travers cet héritage-là, qui peuvent nous donner leur perspective, leur histoire, raconter leur histoire, etc. par rapport à l'héritage, l'héritage matériel et immatériel, pas uniquement les bâtiments, mais aussi tout héritage immatériel, la musique, le chant, la gastronomie, etc.
Donc, parce que quand je vois ces sites historiques, ce n'est pas seulement pour l'aspect visuel, la culture, l'histoire. Et on se serait attendu à ce qu'il y ait aussi un aspect de favoriser les échanges touristiques entre les deux pays. Est-ce que c'est un des objectifs aussi de ce symposium ou c'est quelque chose qui vient de ma tête un peu de layman, comme on dit en anglais?
Oui, bien sûr. Cet événement vise bien sûr à renouer, à établir des relations et des échanges que ce soit sur le plan académique, sur le plan culturel et bien sûr sur le plan touristique, pour ainsi faire des échanges entre les deux pays et puis les deux continents entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Asie et le bassin méditerranéen en général. Finalement, le but touristique y est toujours.
Et ça, c'est un but qui pourrait aussi générer d'autres approches qui pourraient bénéficier de deux côtés à des communautés, donc que ce soit malaisien et tunisien, je suppose.
Ça paraît finalement que c'est juste un petit projet qui a juste des petites répercussions, mais réellement, comme étant un projet qui vise beaucoup d'aspects en même temps, c'est un grand projet qui essaie de toucher à plusieurs aspects en même temps.
Et ces sites sont-ils tous protégés dans le cadre du patrimoine international ou c'est des sites qui sont tout simplement sélectionnés pour leur aspect, leur richesse que vous connaissez en tant qu'expert?
Alors, en ce qui concerne les sites tunisiens, si je me permets, la Médina de Tunis, Kairouan et Sousse sont des sites protégés par l'UNESCO depuis les années 70. Les sites malaisiens aussi, en ce qui concerne Malacca et l'île de Penang, Georgetown, sont des sites protégés. Johor Bahru, c'est un site qui est à la frontière avec Singapour. C'est un site qui a beaucoup d'emblèmes, beaucoup d'emblèmes historiques, beaucoup d'emblèmes patrimoniaux, etc.
Et de potentiel aussi.
Et on essaie de faire un peu de focus sur les communautés qui ont créé ces sites-là, les communautés qui ont interagi avec ces sites-là. Par exemple, en Malaisie, on voit la culture Pernakan culture qui vient du sud de la Chine. Donc, cette culture-là a fusionné avec la culture malaise, la culture malaise en Malaisie, a créé ce qu'on appelle Pernakan culture et a eu beaucoup d'influence sur les tissus, sur l'architecture, sur les shop houses qu'on voit à Malacca, qu'on voit à Penang, etc. Donc, c'est un tout, en fait.
J'étais à Kuala Lumpur, je vois l'invasion des grandes tours et les tours Petronas, ça c'est le symbole que l'on voit, mais le touriste moyen comme moi ne voit pas tous ces autres sites. En fait, il faut vraiment aller, creuser profondément pour...
C'est intéressant, j'ai la même vision en visitant Kuala Lumpur notamment, ou bien Dubaï par exemple. La majorité qui visite Dubaï, ils vont à GLT Towers, etc. Mais ils vont pas à côté de la rivière de Dubaï, l'ancienne ville, la petite ancienne ville de Dubaï, là où il y a les musées, là où il y a les habitations traditionnelles, etc. Donc, la ville du 21e siècle, il y a une dominance de cette culture-là, de mondialisation, des tours et tout ça.
Et enfin, d'émission un rappel des grands titres de ce 12 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1262 cas locaux de Covid-19 et 7 décès. Une nouvelle campagne Covid-19 est lancée à travers le pays ce dimanche, ciblant celles et ceux qui hésitent à se faire vacciner. Et puis la Britannique Emma Raducanu remporte la finale de l'US Open de tennis. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, ce sera pour mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Très belle fin d'après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.